podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholet, je suis journaliste et je vous propose, le temps d'un trajet en métro ou en bus, de tout comprendre sur un sujet de recherche. La chercheure que je reçois aujourd'hui travaille sur un thème presque universel. En tout cas, pour celles et ceux qui conduisent une voiture, on va parler de l'agressivité au volant. Qui n'a jamais passé ses nerfs sur son klaxon, insulté ou même eu l'envie irrépressible de frapper l'autre au volant. Bonjour Émilie Berdoula.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, chercheur au sein du laboratoire clinique psychopathologique et interculturel LCPI de l'Université Toulouse Jean Jaurès et vous êtes également psychologue clinicienne. Ce que je viens de décrire, Émilie Berdoula, ça fait évidemment sourire parce qu'on se reconnaît tous là-dedans, mais il n'empêche que l'agressivité, voire même la violence au volant, sont loin d'être anecdotiques.
Tout à fait. C'est vrai que c'est une problématique où je pense qu'on peut tous témoigner d'avoir été témoins déjà, mais aussi auteurs parfois de comportements agressifs sur la route. Donc c'est quand même un questionnement qui touche voilà, tout conducteur qui un jour a rencontré un autre conducteur sur la route. Des différences de point de vue, d'interprétation du code qui font que la rencontre à l'autre peut générer des comportements agressif.
Est-ce que c'est un phénomène qui, pour le coup, prend de l'ampleur ?
C'est vrai que c'est quelque chose qui est à questionner, hein, notamment au niveau du contexte sociétal et des périodes qu'on a pu vivre, confinement, Covid, etc. Et qui ont quand même exacerbé, en tout cas rendu la tolérance à la frustration un peu plus difficile. Et c'est vrai qu'on observe, ne serait-ce que dans les faits divers déjà rapportés dans les journaux quotidiens, des cas de dames âgées, il n'y a pas si longtemps, sur Tournefeuille, qui se fait gazer par une autre femme parce qu'elle n'avançait pas assez vite. Voilà, c'est des comportements qui sont de plus en plus significatifs et violents aussi.
Alors moi, je voudrais avoir justement votre regard de chercheur et d'une, bien sûr, mais aussi de psychologue sur ce processus qui fait qu'on se transforme complètement en autre personne quand on est dans une voiture. Qu'est-ce qui se débranche dans notre cerveau pour qu'on devienne comme ça ?
Il y a plein de pistes explicatives. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans leur personnalité déjà, qui ont plutôt tendance à l'agressivité, à l'impulsivité. La recherche de sensations rentre aussi en jeu quand même, hein, dans l'idée de prendre des risques sur la route. Donc certains ont, on dira, ce fonctionnement-là et vont l'exprimer naturellement aussi sur la route. Mais d'autres peuvent être des personnes à l'écoute, calmes dans la vie de tous les jours et basculer vers des comportements agressifs en voiture, notamment liés à la gestion des émotions. Parce qu'il y a quand même ça qui rentre beaucoup en jeu, la question de la colère et de la gestion de la colère qui rentre en jeu. Également la question de la tolérance à la frustration, mais aussi l'acceptation de l'injustice. Il y a aussi ça qui est compliqué pour un conducteur lambda, qui est parfois de laisser passer des comportements qu'il trouve à côté, qu'il trouve exagérés, qu'il trouve risqués, et où il va avoir besoin à ce moment-là, dans cet espace un peu sécurisé, parce qu'il faut dire ce qui est, on ose plus de choses dans notre voiture que sur la route. Je donnais beaucoup cet exemple de l'exemple du tigre et de la cage, c'est-à-dire qu'un tigre, lorsqu'il est dans une cage, on peut s'approcher de lui à un mètre, on va ressentir l'excitation de s'approcher d'un animal aussi noble et dangereux, mais sans risque. Et lorsqu'on est à la même distance du tigre, mais qu'on enlève la cage, l'excitation n'est plus ce qu'elle est, elle se transforme plutôt en peur. C'est ce qui se passe avec la voiture, c'est-à-dire que dans ma voiture, j'ai un peu cette excitation de jouer aussi avec les limites, avec je peux me confronter, je peux laisser échapper cette colère. Si j'étais sur le trottoir, peut-être que ma colère se raviserait un peu et que voilà, je serais plus prudent.
En tout cas, vous avez eu envie de comprendre ce phénomène, donc vous avez mené une enquête et même ce qu'on appelle une étude de cohorte en interrogeant des conducteurs. Alors, qui étaient-ils déjà, ces conducteurs et conductrices ?
Alors, j'ai interrogé plus de 700 conducteurs qui allaient du conducteur lambda quotidien qui utilise sa voiture comme moyen de transport classique. Je suis passée par des conducteurs qualifiés d'infractionnistes, mais en tout cas qui suivaient des stages de récupération de points, et jusqu'à aller dans le milieu carcéral, donc avec des personnes qui étaient incarcérées pour avoir commis des délits routiers. Donc délits routiers qui sont très larges, hein, puisque ça peut aller de défaut d'assurance, usage de fausses plaques, mais jusqu'à homicide involontaire. Voilà, donc j'ai pu aller interroger un panel quand même assez large de conducteurs, avec l'idée quand même d'avoir, d'aller vérifier s'il y avait un continuum en fait, ou à quel moment ça bascule aussi. Est-ce que la personne qui a fini en incarcération, elle est partie comme le tout venant et que petit à petit, il y a une escalade, un engrenage qui s'est mis en place et qui l'a terminé incarcéré. Voilà, c'était aussi mon questionnement.
Et vous avez fini par dégager de tout cela 4 profils types de conducteurs agressifs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Tout à fait. Donc, suite à cette étude, eh bien, il y a 3 profils, on dira, de conducteurs agressifs. Et un profil que j'appelais respectueux, qui était très peu agressif et pas du tout transgressif. Puisque moi, dans mes études, j'ai vraiment séparé ces deux aspects. C'est-à-dire le conducteur purement agressif, c'est-à-dire qui crie, qui klaxonne, qui insulte, qui va se battre. Et le conducteur agressif transgressif, c'est-à-dire que son acte agressif est aussi une transgression au code de la route. Donc coller le véhicule devant soi, faire une queue de poisson, rouler à une vitesse excessive. Voilà. Et donc à l'issue de ce travail, donc il y a 3 profils de conducteurs agressifs. Les agressifs justiciers, qui sont les plus nombreux, qui ne sont pas transgressifs, qui vont exprimer un comportement agressif en réponse au mauvais comportement des autres.
Ils veulent rétablir la règle, l'ordre.
C'est ça, ils veulent rétablir l'ordre. Mais en soi, ce qui est intéressant, c'est que parfois, cet ordre, c'est leur propre ordre. C'est-à-dire que c'est leur propre norme aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément en référence au code de la route, mais c'est dans leur système de valeurs, on ne fonctionne pas comme ça, donc je vais aller dire à l'autre que son comportement ne me convient pas. Donc, les agressifs justiciers sont, en règle générale, pas trop transgressifs, quand même. Ils sont plutôt respectueux du code de la route. Les agressifs situationnels, eux, je les ai retrouvés le plus souvent en stage de récupération de points. C'est les personnes qui aiment conduire, qui aiment la sensation quand ils conduisent et qui sont plutôt dans un style compétitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vocation à nuire à l'autre. Il y a une idée de se faire plaisir à soi et dans le plaisir que je me fais à moi, je peux mettre en danger l'autre, mais ce n'était pas mon objectif premier. Donc cela, on les retrouve beaucoup dans infraction, vitesse, voilà, prise de risque, on les trouve beaucoup là-dedans. Et après, le profil le plus agressif, c'est l'agressif dominant, qui heureusement est le moins représenté, le moins nombreux, qui, eux, clairement, cherchent la confrontation sur la route. Voilà. C'est-à-dire que, alors ça peut être sur un mode de compétition, mais c'est quand même dans l'idée, je cherche la confrontation plutôt que la compétition. Voilà, je cherche la confrontation. Et dans ces profils-là, il y avait beaucoup de profils qui, en fait, recherchaient une autorité suprême. C'est-à-dire, montrez-moi qu'à un moment, je peux être contrôlée par quelqu'un. Donc, je vais pousser jusqu'au bout.
Je vais provoquer la violence.
Ouais. C'est ça. Jusqu'à aller, jusqu'aux forces de l'ordre et jusqu'à être incarcérée aussi parce que ma limite, elle était là. L'autorité que j'ai trouvée, c'est celle-là.
Dans ce que vous me décrivez, hommes et femmes, ils sont logés à la même enseigne, enfin, dans les statistiques ou les études ?
C'est vrai que dans les statistiques, les hommes, en tout cas, si on devait décrire un conducteur agressif rapidement, c'est un homme jeune. Voilà, c'est à peu près ça. Sauf que dans la réalité, on se rend compte que les différences ne sont pas si évidentes que ça. Que c'est au niveau de la traduction du comportement agressif. C'est-à-dire qu'au niveau des pensées, hommes et femmes sont quasiment au même niveau dans les pensées agressives. Sauf que pour la femme, ça va rester sur un niveau de rumination. Et pour l'homme, ça peut en effet se traduire par un comportement ouvert. Mais il y a des études qui ont montré qu'au niveau des pensées, il n'y avait pas une si grosse différence que ça.
Émilie Berdoula, vous avez aussi amené à votre étude une approche qualitative en y amenant la psychocriminologie. Vous êtes allée regarder le parcours de vie des personnes. Pourquoi c'était important d'aller sur ce terrain-là ?
Les études qui ont été faites sur le sujet, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était en 2009, il me semble. Et toutes les études que j'avais pu trouver sur le sujet étaient des études quantitatives, donc de cohortes, qui en définitive ne questionnaient pas le pourquoi. On mettait en lien des variables, la colère, l'impulsivité. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Qu'est-ce qui différenciait aussi ces profils de conducteurs ? Ça manquait dans ces études-là. Et en plus, de par ma sensibilisation aux approches psychocriminologiques, c'est vrai que moi je me suis questionnée en me disant est-ce que le délinquant routier est un délinquant comme les autres ? ou est-ce qu'il y a une particularité de ce type de délinquance, puisque ça touche aussi un plus grand nombre de personnes. Et c'est pour ça que je suis partie sur une approche qualitative en explorant le parcours de vie pour voir si, dans leur parcours de vie, il y avait des vulnérabilités, des éléments, des trajectoires qui pouvaient être communes à un parcours d'un délinquant, de notre type de délinquance. Et il s'est avéré que, à chaque fois, les sujets que j'ai pu interroger, eh bien, on voit que dans leur parcours de vie, il y a des carences psycho-affectives, il y a des ruptures dans leur parcours. Et surtout, ce que je suis allée interroger, c'est la place de la voiture dans leur histoire de vie. C'est-à-dire voir qu'est-ce que cet objet voiture représentait dans leur histoire. Et je me suis rendu compte que cette voiture, elle avait un autre rôle que celui d'un moyen de transport. C'était parfois un refuge, c'était parfois un lieu de vie. C'était un moyen de se sociabiliser, de s'autonomiser, de se défaire parfois d'une emprise familiale pesante. Et c'est là où on se rend compte de pourquoi la voiture peut générer des comportements aussi extrêmes. C'est qu'elle vient faire appel à de l'intime aussi chez l'individu. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant dans mes derniers travaux au niveau de cette approche qualitative de la conduite agressive.
Vous parliez de ce que représente la voiture. La voiture, c'est aussi, alors ça peut être un symbole de puissance, mais c'est aussi un grand espace de liberté quand on prend sa voiture. C'est vraiment... On a l'image presque de la route sur les États-Unis. C'est un vent de liberté. Et vous dites que ça, c'est très important, justement, cet aspect-là, dans l'explication aussi d'un comportement violent au volant. Pourquoi ?
Oui, tout à fait. C'est que plus on avance dans le temps, plus on peut nous limiter dans certaines de nos libertés, ne serait-ce que même sur la route. Hein. Les règles de conduite changent, évoluent. On abaisse les limitations de vitesse. Voilà, si on compare ce qui était fait dans les années 60, ne serait-ce que le taux d'alcoolémie où on pouvait quasiment conduire avec, c'était 1,6 grammes.
On ne mettait même pas sa ceinture de sécurité non plus.
Oui. Ça ne servait à rien de toute façon, puisque on y était. On avait une mortalité routière qui est montée jusqu'à 16 000 morts quand même par an, donc c'était assez énorme. Donc oui, on a dû restreindre le champ des libertés pour protéger l'individu. Les voitures ont évolué aussi et permettent quand même aussi de protéger le conducteur dans l'impact. Mais c'est vrai que cette notion de liberté, elle est quand même restée dans... Je ne qualifierais pas d'inconscient collectif, mais en tout cas, quand on prend sa voiture, c'est enfin, je suis chez moi, dans ma bulle, et j'y vais, je roule, je vais où je veux, quand je veux. Et c'est vrai que venir restreindre cet espace, et cet espace de ces espaces de liberté qui deviennent presque de plus en plus rares, en fait, et fait que on réagit de plus en plus violemment à cette restriction de liberté, de dire, c'est un moyen dans lequel je peux un peu me laisser aller, je peux libérer des tensions, des émotions, et on vient encore me chercher chez moi, parce qu'en fait, la voiture, c'est chez moi. C'est un prolongement de moi-même, et c'est aussi un prolongement de mon lieu de vie. Je me déplace avec. Donc, on ne supporte plus d'être contraint aussi dans cet espace qu'on est censé pouvoir être libre d'investir comme on le souhaite.
On est d'accord que là, on parle de quelque chose qui est inconscient, c'est-à-dire on le vit peut-être dans notre chair,
c'est
mais on n'en a pas forcément conscience.
C'est ça, tout à fait. Ça fait vraiment appel à cet intime, à cet archaïque qu'il y a aussi chez l'individu, et qui fait on vient pénétrer mon espace vital et mon espace intime.
On vient me contraindre.
Ouais. Complètement.
Est-ce qu'on sait toujours si on est un peu plus ou moins violent au volant ? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu dans le déni quand même là-dedans ?
Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je dirais que par expérience, les plus agressifs sont peut-être en effet dans le déni. Et puis, il y a la question aussi de la norme sociale et morale que chacun se pose. Un comportement agressif que nous, on peut percevoir, ne sera pas perçu comme agressif par son auteur, parce que pour lui, c'est son mode de fonctionnement et il ne voit pas le mal. Donc, en fait, la route, c'est une rencontre de systèmes de valeurs différents aussi. Donc, ça clash, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un code pour nous guider, mais on a quand même nos valeurs que l'on transporte avec nous dans cette voiture. Donc cette rencontre-là fait que certains, oui, prennent conscience que il y a des fois, pourquoi, voilà, je pense que moi j'en suis témoin aussi, il y a des fois je me dis pourquoi là tu t'es énervé en conduisant, pourquoi tu l'insultes alors qu'il ne t'a rien fait, qu'est-ce qui se joue là-dessus. Je pense que c'est un peu cathartique aussi. Oh, ça nous permet, voilà, d'évacuer. On a passé une sale journée au boulot. On va en insulter quelques-uns dans notre voiture. On a déchargé un peu avant de rentrer à la maison. Voilà, ça a fait de mal à personne. Il ne nous a pas entendus. Voilà. Mais la question se pose, c'est quand je décide de sortir de l'habitacle, en fait, ne serait-ce que même ouvrir ma vitre pour qu'on m'entende. Il y a aussi ça. Il y a cette intention de vouloir être entendu dans mon comportement agressif qui diffère. Je pense que dans la majorité des cas, on va le laisser dans notre, voilà, dans notre habitacle. Voilà. Mais il y en a quand même de plus en plus qui veulent être entendus dans leur mécontentement.
J'adorerais continuer cette discussion, Émilie Berdoula, c'est passionnant. Est-ce que vous auriez, c'est la tradition sur On Air, un conseil de lecture, d'expo, de films, de tout ce que vous voulez, roman graphique, à conseiller à celles et ceux qui nous écoutent sur ce vaste thème?
Alors j'avoue que j'ai un peu une sensibilité pour des films qui, je trouve, parfois relatent très justement ces problématiques et les poussent parfois à l'extrême. J'ai dans la tête un film de Spielberg qui s'appelle Duel.
Oh oui, vieux film.
Très vieux film, mais qui est génial pour illustrer. Voilà, c'est vraiment un huis clos. On est sur la route en permanence. Et pour mes goûts personnels, j'avoue que Boulevard de la Mort de Tarantino. C'est pour anecdote, j'ai pris la voiture comme fond d'écran pour ma soutenance de thèse, en fait. Mmh. J'avais pris la voiture de Boulevard de la Mort pour illustrer ou comment la voiture devient une arme aussi, parce que c'est quand même une réalité, elle est quand même là. Donc voilà, deux films qui me semblent être en tout cas intéressants pour recouper avec des formes extrêmes, bien sûr, d'agressivité sur la route.
Un grand merci, Émilie Berdoula, d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production Le Vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet du pôle production Le Vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'université, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université. Vous pouvez bien sûr retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques.